France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il a une gueule de cinéma unique, il a enchanté plusieurs générations de spectateurs, de la mouche à Jurassic Park, mais on connaît moins le pianiste fou de jazz. Il vient de sortir un nouvel album. Jeff Goldblum sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, honneur à la critique, aujourd'hui on scrute l'actualité de la bande dessinée avec deux albums français qui nous emmènent loin de l'Hexagone. Paul, la résurrection de James Paul McCartney d'Hervé Bourris, publié chez Casterman, et Electric Miles, tome 1, Wilbur, de Fabien Nury et Bruno Sasséché Glénat. Vous écoutez les Midis de Culture et ça mérite un merci. Merci. Pour parler BD aujourd'hui dans ce studio, Antoine Guillot, journaliste critique de cinéma et de bande dessinée, producteur de l'émission Plan Large sur France Culture le samedi à 14h. Bonjour.
Bonjour.
Victor Massé de l'Épinay, rédacteur en chef adjoint du Pèlerin. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Le titre « Too Many People » de Paul McCartney, on le retrouve sur l'album « Ram » sorti en 1971, album composé et chanté par Paul et sa femme Linda. Quelques mois après, l'ex-Beatle créera un nouveau groupe légendaire aujourd'hui, les Wings. C'est cette période que raconte Hervé Bourris dans sa BD « La résurrection de James Paul McCartney ». Comment Paul a vécu la fin des Beatles, spoiler très mal, et comment, peu à peu, il va s'émanciper et se remettre en selle. On commence avec un avis rapide, Victor Massé de l'Épinay.
Ben moi qui suis plutôt un Lennonien, j'étais très content de découvrir beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur ces années 69-73 de Paul McCartney et de le réécouter bien sûr.
Antoine Guillot.
Alors moi je suis encore plus béotien que mon camarade puisque les Beatles m'ont jamais beaucoup intéressé, mais c'est ce que j'ai lu de plus joyeux, coloré et instructif sur une dépression. Donc c'est un très très bon livre.
Alors Victor Massé de l'Épinay, cette période-là, 69-73, c'est la chute des Beatles et la résurrection qui viendra après.
Oui c'est ça, c'est une histoire de résurrection, on peut dire ça, oui, d'abord de dépression, vous l'avez dit, 69 c'est la fin des Beatles, ça s'étale sur quelques mois. On croit que c'est d'abord Paul qui quitte le groupe, puis c'est John, enfin puis c'est... On ne sait pas trop comment ça s'est terminé, ou plutôt on le sait trop, puisqu'il y a une littérature plus qu'abondante sur le sujet, et on continue année après année d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé, de prendre parti. Ce qui est fascinant d'abord dans ce livre d'Hervé Bourris, enfin c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il m'a donné envie d'écouter de la musique. L'année dernière, à ce même micro, on avait parlé de mon infractus, ma vie de DJ du même Hervé Bourris, qui m'avait fait découvrir plein de choses sur l'électro française et européenne. Là, j'ai découvert, moi, les Wings, parce que moi je suis très fan des Beatles, mais j'ai jamais vraiment eu de curiosité pour ce qui se passait après, surtout du côté de Paul McCartney. John Lennon, on le connaît parce qu'il a fait quand même des chansons qui sont restées, on peut Imagine, Working Class Hero, etc., etc. Les Wings, j'avais toujours eu cette image d'un groupe un peu ringard, un peu qui était là un peu comme une bouée de sauvetage pour Paul McCartney, qui a le gros désavantage par rapport à John Lennon d'être resté vivant et d'être aujourd'hui quelqu'un qui ne m'est toujours pas extrêmement sympathique, enfin en tout cas aujourd'hui à l'âge qu'il a. Là en 69, 70, 71, c'est quand même quelqu'un de très intéressant, très touchant, c'est quand même un grand artiste, il me semble, enfin les Beatles c'est quand même quelque chose de très important. Même s'ils n'ont jamais été, peut-être que Paul McCartney et John Lennon n'ont jamais été aussi bons que quand ils sont ensemble. On a découvert il y a pas longtemps les images de la Get Back Session remontées par Peter Jackson dans un grand documentaire qui durait plusieurs heures. Les moments les plus émouvants, c'est les moments où John et Paul, qui sont très embrouillés à l'époque et qui ne s'aiment pas, jouent ensemble comme des gamins. Et tout d'un coup, on voit qu'ils se sont connus à 13 ans, 14 ans, et que rien ne remplace cette complicité des adolescents et qui parlent la même langue. C'est des jumeaux et c'est assez fascinant. Je crois que d'ailleurs, c'est ce documentaire qui a donné à Hervé Bourris l'envie d'écrire cette bande dessinée. Lui, il est assez militant Paul McCartney. On voit que c'est lui qui veut réhabiliter quelque chose. Mais voilà, c'est quelqu'un qui donc traverse une profonde dépression. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il repart véritablement à zéro, en remontant un groupe avec sa femme et en faisant des tournées d'université à 40 cents la place en Angleterre, en recrutant des musiciens avec des petites annonces anonymes et des types qui se pointent dans les studios Columbia et qui disent « je viens pour l'annonce » et qui reconnaissent Paul McCartney et puis il dit « bah viens jouer avec nous ». Et il y a un côté très rock'n'roll, alors que c'est plutôt... Enfin, ouais. Paul avait une image plus trop rock'n'roll, et tout d'un coup, on s'est dit, dans ces années-là, il est quand même très chouette type, et c'était assez marrant, il y avait quand même un grand vent de liberté que Hervé Bourris rend très bien.
Alors, Antoine Guillot, il le rend très bien, comment fait-il pour en rendre compte ?
Alors, il le fait avec un brio absolu, c'est ce qui m'a le plus réjoui dans ce livre, parce que je dois vous avouer que j'avais un peu peur en voyant la couverture, mon Dieu, encore une biographie. Le marché de la bande dessinée est saturé de biographies maladroites qui recrachent de la documentation, qui veulent être didactiques et où le dessin et la bande dessinée comme art ne suit pas toujours. C'est pas du tout le cas dans ce livre, c'est une explosion graphique en permanence. Enfin, Hervé Bourris atteint, et je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose avec Mon Infractus, où il avait déjà réuni un peu tout ce qu'il savait faire avant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très bon dans le scénario quand c'est dessiné par d'autres, qui est très bon dans ses petites encyclopédies, ses petits livres qu'il a fait. Il en avait fait un notamment sur les Beatles, sur le rock, enfin voilà, il sait très bien s'emparer en fait des icônes et de ce qui tout de suite parle et fait partie de la culture populaire qu'il va retravailler. Mais avec Mon Infractus, il a touché à quelque chose de très intime. Et en fait, c'est comme s'il se mettait à la place de Paul McCartney et qu'il vivait vraiment tous ses affres. Et alors, ce qui est très surprenant graphiquement, c'est que ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que sur la même page, on peut avoir un portrait très ressemblant de Paul McCartney, puis immédiatement une image très caricaturale, puis quelque chose de très cartoonesque. Puis ça va partir quasiment dans de l'abstraction par moment. Le plaisir pur du dessin, de la couleur, de ses couleurs... plus très audacieuse.
Voilà, c'est quand même
un livre vraiment qui est fluo, qui pousse le pop extrêmement loin et qui même se sert de tout ce qu'on a pu reprocher à la musique de Paul McCartney, c'est-à-dire ce côté un peu sirupeux, rosâtre, gentil, et il en fait une force graphique. Et ça, c'est déjà très très étonnant. Et puis surtout, c'est quelqu'un, donc on l'a dit, qui est extrêmement érudit sur la question, qui se sert des dernières sources qu'on a, et notamment de l'enregistrement de la dernière réunion des Beatles chez Apple Records, où on sait donc maintenant très précisément ce qui s'est passé au moment de la rupture, mais qui de tout ça fait récit. On n'a jamais l'impression de quelqu'un qui est là pour nous apprendre des choses, pour dire regardez tout ce que je sais, regardez tout ce que j'ai à vous apprendre. On a toujours un personnage qui est ce Paul, qui devient un personnage de fiction documentaire ou de documentaire fictionné, qui devient effectivement extrêmement touchant. Pourquoi ? Parce que d'abord on sait que Paul est toujours vivant, que finalement il a vécu dans les années 70 que beaucoup voudraient vivre aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de retour à la nature, à la famille, où on va devenir vegan. Il est complètement en phase dans ce qu'on est aujourd'hui. C'est vrai que quand on revoit ce qu'a été John Lennon qui chantait la paix tout en se défonçant dans son appartement sublime à New York, il y a quand même des choses entre la légende et la réalité qui fonctionnent plus tout à fait. Donc il fait effectivement, à partir de l'histoire de celui qui a toujours été le loser de la légende des Beatles, un portrait, et qui est certainement un autoportrait aussi très touchant, parce que je pense que Hervé Bourris met beaucoup de ses propres interrogations, de ses propres affres, sans doute de sa propre dépression. Je ne sais pas s'il en a fait une, mais en tout cas, il a dû, parce que c'est raconté vraiment de l'intérieur ce que c'est que de traverser ça, et ça fait un livre très très audacieux en fait, et très très beau.
Qu'est-ce qu'on apprend que vous ne connaissiez pas, par exemple, Victor Massé?
Ah ben moi, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je connaissais pas l'histoire de l'enregistrement d'un album au Nigeria, à Lagos, avec Fela Kuti, qui est une espèce de démiurge local à l'époque.
De parrain, même.
Et de parrain, voilà, qui peut intimider, qui peut faire, et puis qui finalement adoube d'une certaine façon McCartney et les Wings. Je ne connaissais pas sur les Beatles et la séparation. Je connaissais des choses, mais je savais pas qu'il avait vécu comme ça en Écosse à élever des moutons. Alors évidemment, en faire pour autant un grand précurseur de l'écologie du 21e siècle, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est pas non plus le tout du propos d'Hervé Bourris, loin de là. C'est pas ce qu'il y a de plus convaincant, parce que d'abord, lui aussi en Écosse, il est quand même à peu près défoncé tout le temps. Je me demande s'il y a eu un moment...
Il est alcoolique à ce moment-là.
Oui, il y a alcoolique, mais il y a aussi beaucoup d'héroïne, de cocaïne, avec Fela Kuti, c'est du whisky chargé d'herbe qui a macéré. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est pas mal défoncé. C'est un peu moins l'image qu'on donnait. On savait qu'il avait eu des histoires avec en effet de l'herbe dans un avion en Suède, au Japon. Il a eu des petits problèmes comme ça. Il y a quand même aussi beaucoup de drogue dure. Moi, ce que j'ai trouvé aussi fascinant quand même dès le début, c'est que quand ils se retrouvent, les Beatles sont terminés et qu'il se sent loser et qu'il plonge dans la dépression, Hervé Bourris lui fait dire: je suis un vieux ou un loser ou un vieillard de 27 ans. Mm-hmm. C'est que les Beatles, on oublie parfois que c'est entre leurs 18 et leurs 27, 28 ans. Ringo Starr a presque 30 ans, c'est le doyen du groupe. Et ça, c'est complètement fascinant. Et, y compris sur les visages qu'ils ont sur les pochettes d'Abbey Road. Hirsute, avec des barbes énormes. Même George Harrison, qui est le petit Benjamin, a l'air d'avoir, je sais pas quel âge, on se dit c'est des types d'une maturité exceptionnelle. En fait, ils ont 25, 26 ans. Et ça, c'est assez étonnant. Moi, ce que j'admire beaucoup chez Hervé Bourris, c'est vraiment son sens, la composition dont a parlé Antoine, l'alternance des registres. Mais comme caricaturiste, il faut quand même dire qu'il est absolument génial. Il a une façon de croquer Paul McCartney et tous les autres, puisqu'on voit beaucoup de célébrités dans ce livre, de Fela Kuti dont j'ai parlé, à Elton John, s'il y a Stevie Wonder, je crois qu'il y a Stevie Wonder à un moment,
enfin oui, il y a Stevie Wonder,
beaucoup
ouais.
d'autres de la musique. Et sur John Lennon, c'est peut-être la caricature, soit la moins bonne, soit la plus chargée. Il lui fait vraiment un nez énorme et crochu, une tête de sage, un peu dingo et un peu gourou. Et on voit là peut-être qu'il a chargé pour qu'il prend parti quand même d'une certaine façon.
Et sur le travail de la couleur qu'Antoine a abordé.
Et ben oui,
parce que c'est vrai que c'est surprenant. On pourrait s'attendre à ces couleurs psychédéliques des années 70, et pas du tout là. Il nous fait quelque chose de très actuel.
Il y a du psychédélique quand même à certains moments. Enfin, c'est vraiment une alternance. Là, je tourne les pages en vous parlant. Il y a des moments où c'est du fluo. Il y a le rose fluo est quand même la couleur peut-être qui domine, hein, le rose stabilo presque.
Ouais.
Mais il y a des pages plus douces, avec des tonalités plus pastelles. Il y a quand même un peu de côté psychédélique et des compositions de grandes pages quelquefois qui sont assez qui éclatent complètement le format de la bande dessinée. Il y a plus de cases, plus de bordures et des beaucoup d'évocations, beaucoup de références graphiques aux pochettes, aux thèmes des chansons. C'est aussi un album, si on est érudit, ce que je ne suis pas complètement, on comprend plein de choses. Il y a des paroles de chansons ici et là, il y a les boules de billard jaunes et rouges de l'album Mars et Vénus qui sont comme une citation à la fin, qui reviennent comme des planètes, etc. C'est un album, et des choses que j'ai pas compris, des lettres dans des petites bêtes là sur cette même image, RJPG, John, Paul, George, Ringo. Ça y est, je viens de comprendre.
Vous voyez,
c'était pas très compliqué.
Bon, vous n'êtes pas venu pour rien.
Antoine Guillaume, un dernier mot peut-être.
Non, mais justement, ce que j'aime assez, c'est que c'est pas un livre pour fans. C'est-à-dire qu'il y a des références, effectivement, qui parleront à ceux qui connaissent l'histoire par cœur, même qui découvriront peut-être autre chose. Pour, encore une fois, pour les béotiens, pour les sceptiques, pour les gens qui n'aiment pas tout ça, c'est extrêmement parlant, parce que c'est avant tout une aventure humaine, pour ce que ça raconte, et une aventure graphique assez exceptionnelle pour ce que ça montre. Donc c'est un livre voilà, vraiment réjouissant et pour tous.
Et c'est très beau là, aussi la façon dont il montre le couple avec Linda et l'importance que ce couple a au moment où les Beatles se séparent. Paul, la résurrection de James Paul McCartney, 1969-1973, signé Hervé Bourris, et c'est chez Casterman. C'est l'heure de votre coup de cœur, Victor Massé de l'Épinay. C'est une expo.
Oui, une exposition qu'on peut voir en ce moment à Chartres, dans un musée qui s'appelle Le Compas, qui est situé à deux pas de la gare de Chartres. Une exposition de bandes dessinées. Le Compas, c'est un musée, un conservatoire des pratiques et des machines agricoles. Donc les collections permanentes, c'est plutôt tout ce qui évoque la vie rurale au XXe siècle et beaucoup de tracteurs et de machines dont on peut voir l'évolution, la mécanisation des campagnes. Et ils ont eu l'idée de faire une exposition de bandes dessinées. Et le thème qu'ils ont choisi, assez naturellement, c'est le thème du paysage. Et ils ont fait appel à Thierry Grunstein pour être le commissaire scientifique de cette exposition, ce qui donne tout de suite quand même un gage de sérieux. Cette exposition s'appelle Petites cases, grands espaces, et elle est non seulement très belle dans la scénographie, très soignée, très élégante et très riche, puisqu'il y a 250 planches planches dont plus des deux tiers d'originaux. Assez intelligemment, ils ont pris essentiellement des auteurs français vivants. Donc, on voit des planches d'Étienne Davodeau, de David Prudhomme, de Edmond Baudouin, de Emmanuel Lepage, et d'auteurs peut-être aussi un peu moins connus, Gaëtan Nock, Lomic. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous montre que le paysage n'est pas comme les descriptions de Balzac, un peu qu'on peut sauter en se disant ça sert à rien. Mais le paysage dans la bande dessinée, ce n'est pas qu'un décor, c'est souvent un personnage ou quelque chose qui sert la narration, qui sert l'intrigue. Donc ça, c'est très bien montré. Et il y a aussi, bien sûr, une dimension écologique, environnementale. Aujourd'hui, regarder ces paysages, c'est se poser beaucoup de questions, celles que nous posent les auteurs de bande dessinée en nous montrant ces paysages sur la préservation de l'environnement. Et puis c'est aussi ce qui est le plus réjouissant, c'est vraiment une exposition qui n'est pas pour les spécialistes non plus, qui est à découvrir en famille. Il y a beaucoup de choses pour les enfants, et c'est une exposition dont on ressort avec l'envie de dessiner. C'est ça qui est formidable, c'est que on se dit le dessin, c'est sans doute, dessiner c'est sans doute la meilleure façon de regarder ce qu'il y a autour de nous. On le voit à longueur de planches et de cases dans cette exposition, et on sort avec l'envie de lever les yeux et de prendre un crayon et d'essayer, même si on sait pas bien le faire. Et voilà, c'est une très belle exposition qui est visible jusqu'au 15 juin. Ça s'appelle Petites cases, grands espaces, et c'est au Compas à Chartres.
Ambiance polar des années 50 pour ce premier tome d'une nouvelle série créée par le duo Fabien Nury et Bruno. Mais un polar matiné de science-fiction, d'esthétique pulp. Nous sommes en décembre 1948 à Los Angeles. Wilbur Arbogast est un célèbre auteur de SF qui a perdu pied. À l'agent littéraire qui veut le relancer, il révèle qu'il a écrit un texte qui peut rendre fou ses lecteurs, au point de les pousser au suicide. Psychanalyse, hypnose, extraterrestre, même religion, un puissant mystère règne dans ses pages. Wilbur annonce comme le premier d'une série. On se demande bien quelle direction elle va prendre après ça. On commence avec un avis rapide, Antoine Guillou.
Oui, je dirais que c'est un grand livre sur notre besoin de croire tout ce qu'on nous raconte et sur ce que des esprits malfaisants peuvent en faire.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, c'est aussi un grand livre sur le genre, et je partage votre avis. On se demande dans quelle direction ça va aller. Je crois que la série s'annonce longue et ils prennent le temps de mettre en place. C'est pas trop rapide, c'est une exposition fascinante, absolument maîtrisée.
Alors, Antoine Guillot, je reviens à vous. Grand livre en quoi ?
Grand livre, on sait que, enfin, on connaît le travail du duo Bruno Fabien Nury. On sait qu'ils étaient très forts, notamment dans la série Tyler Cross, qui est leur grande œuvre pour l'instant, à malaxer la culture populaire. Alors, enfin, en l'occurrence, le polar hard-boiled, et en tirer une sorte de substantifique moelle extrêmement prenante, très forte. Ça tenait un peu du maniérisme jusque-là. Maintenant, ils font de leur amour de la culture pulp, puisque c'est le point de départ de ce livre, ils ne savaient même pas trop où ils allaient, ils avaient envie de se confronter à toutes ces histoires bon marché qu'on pouvait trouver, alors qui tient à la fois du polar, de la science-fiction, de l'heroic fantasy, tout ça, genre Princesse de Mars, d'Edgar Rice Burroughs et autres. Et puis, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qui les intéressait, c'était de raconter l'histoire des gens qui racontent ces histoires. Et à partir de là, on a à la fois une réflexion sur leurs propres pratiques, mais aussi sur ce que je disais au début, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, puisque le monde est envahi de récits qui n'ont plus rien à voir avec la vérité, mais c'est grâce à ça qu'on emporte le pouvoir. C'est comment, en racontant des histoires, on peut avoir le pouvoir sur des gens et les emmener ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé avec la scientologie. Hein. C'est un des modèles, effectivement, de base de ça. Au départ, il y a un auteur de science-fiction médiocre qui s'appelle Lafayette Ron Hubbard et qui se rend compte, malgré tout, qu'il arrive à embarquer les gens dans ses histoires. Et de ce qu'il a imaginé, il va faire une religion, il va faire un livre qui va s'appeler La Dianétique. Alors ici, ça s'appelle La Psychogénétique. C'est exactement ce que le même ouvrage. Mais alors, imaginez qu'un Philip K. Dick soit devenu Lafayette Ron Hubbard, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait eu une révélation mystique, expérience proche de la mort. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Et ce qui est intéressant avec ce livre aussi, c'est qu'on n'est pas forcé de croire tout ce qu'on nous raconte, mais c'est tellement bien raconté qu'on a envie d'y croire. Donc, expérience proche de la mort, il a une révélation absolue, la vérité sur l'univers. Il va en faire un livre qui va changer l'humanité. Donc ça, déjà, c'est assez passionnant. Mais si le livre est, quand je dis un grand livre, c'est que il y a notamment deux séquences dedans de maestria à la fois narrative et graphique qui sont époustouflantes, qui croisent la première croise des récits qui est à la fois le souvenir de cet écrivain médiocre dans sa caravane de trailer park, se souvenant de ce que lui avait raconté un éditeur qui, pour le motiver, lui dit « Non mais il m'a dit, dis-toi qu'en fait, tout ce que tu écris, enfin tout ce que tu vois, c'est toi qui l'invente, tout se passe dans ton cerveau, donc tu es le dieu de ton monde. » Et tout d'un coup, il dit « Mais si je prenais ça au pied de la lettre, voilà. Si effectivement j'étais le dieu. » Le tout croisé avec les récits assez médiocre et éculé qu'il imaginait, des histoires de patrons qui en fait sont des robots, de femmes se faisant enlever par des extraterrestres, d'un homme, un fonctionnaire lamentable qui se retrouve un héros sur une autre planète. Tout ça, ce sont effectivement ce que racontaient les pulps à l'époque, croisé avec une scène de sexe de celui qui veut devenir agent littéraire avec sa femme. C'est franchement, graphiquement et narrativement, c'est époustouflant. Et puis, alors, deuxième moment de bravoure absolue de ce livre, où on voit la première victime, qui sera certainement dans la suite la plus grande prosélyte de ce malfaisant personnage, se livrant à une sorte de psychanalyse sauvage.
L'hypnose.
Qui est vraiment le principe même de la manipulation sectaire, c'est-à-dire qu'on va faire raconter un traumatisme à quelqu'un tout en pouvant se servir plus tard de ce qu'il a raconté parce que c'est quand même assez embarrassant. Et toute cette séquence où il fait ressurgir un souvenir traumatique chez cette femme, là encore, est absolument époustouflant. Enfin, ils ont atteint un niveau de maîtrise graphique et narrative, le duo Bruno-Nury, qui est époustouflante.
Graphiquement, Victor Massé de l'Épinay, c'est assez saisissant, effectivement, cette ligne claire comme ça.
Oui, une ligne claire très particulière, quand même. La ligne claire de Bruno, c'est peut-être même de moins en moins ligne claire. Il a un style, en tout cas, qui est reconnaissable au premier coup d'œil. Ligne claire au sens où le trait est clos, les couleurs sont en aplat, mais une ligne claire surtout contrastée, puisque le noir prend 50% des pages, enfin quelquefois.
C'est un peu comme du Hergé qui aurait été ancré par Jack Kirby. C'est très curieux.
Voilà, en tout cas, c'est un dessin extrêmement maîtrisé qui tend d'ailleurs de plus en plus dans le traitement de certaines ombres. On reconnaît les griffes qui sont un peu la signature de Burns. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Antoine. Et puis, il y a des pages qui évoquent aussi... enfin, il y a aussi subtilement plusieurs façons de dessiner dans le livre quand il raconte l'histoire de Saint Paul qui est la première grande mystification pour cet écrivain.
Ça pourrait être publié dans Le Pèlerin.
Absolument. Mais il y a des traitements de couleurs très différents. Antoine a raconté, peut-être que c'est complexe d'ailleurs pour les auditeurs de tout comprendre, mais les deux scènes qui sont vraiment les morceaux de bravoure de ce premier tome. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que entre ces deux scènes, on voit se mettre en place cette mystification de cet écrivain raté, avec aussi, à certains moments, de l'humour. Il y a des choses assez drôles. Ce type qui vit, qui traîne en caleçon et en marcel dans son mobil-home paumé dans un coin, qui après cette scène là où qu'il repense à, on lui a dit je suis Dieu, il se prend au sérieux et il sort tout d'un coup au milieu de la nuit en criant je peux faire lever le soleil quand je veux, puis on voit une bulle de quelqu'un off qui dit tu vas fermer ta gueule. Donc il y a des choses comme ça, et puis il y a cette femme qui juste avant de rentrer dans cette psychanalyse sauvage est très maligne, puisque là la façon dont on voit, si on lit attentivement les bulles, le type ne sait rien et fait parler et fait feu de tout bois et fait croire qu'il savait tout, qu'il comprend tout. Enfin, c'est vraiment l'emprise bien décortiquée. Mais juste avant, la femme dit « Moi, je veux me livrer à cette séquence de psychogénie. Et puis toi aussi, peut-être, elle dit à son mari, avec un peu de chance, on pourrait même guérir ta sinusite. » Enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et puis, il y a une scène dont je vais demander à Antoine ce qu'il en a pensé, qui est assez amusante aussi. C'est la scène où il y a toutes les femmes américaines de cette
après, ah oui, dans le salon de coiffure.
Dans un salon de coiffure, qui sont toutes sous leur grosse fusée, enfin je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs qui sèchent les cheveux, qui sont une quarantaine côte à côte et dos à dos, et qui parlent entre femmes, le petit côté Desperate Housewife. Je sais pas si c'est un peu misogyne. On voit un peu le rôle des femmes dans... Ça fait un peu comme si c'était dans ces espaces un peu gynécés que... Ces mystifications allaient pouvoir prendre corps. On dit oui, moi j'y crois. Alors, en même temps, elles sont pas dupes et en même temps, elles ont envie d'y croire. Elles s'ennuient et puis elles disent mais pourquoi pas, on va soigner. Mais j'attends l'analyse d'Antoine.
L'analyse d'Antoine, on l'attend tous.
Ah bah, elle est double. Elle est déjà que dans les années 40-50, il y a un imaginaire SF s'est répandu dans toute la société, puisque à bien regarder ces casques dont je ne connais pas le nom non plus. On a l'impression que ça sort directement d'une des couvertures de Pulp qu'on voit à la fin. Très très beau d'ailleurs, toute cette série de couvertures à la fin qui raconte en sous-main l'histoire qu'on vient de voir. Mais il y a cette dernière case qui est très glaçante, parce qu'en fait elle raconte à sa voisine ce qui lui est sa rencontre avec ce livre, puisque elle l'a lu et elle trouve ça absolument génial, et elle raconte qu'elle se sent très tentée, et à la fin elle dit n'en parlez pas autour de vous, c'est un secret. Sauf que là on est tout d'un coup dans un plan large où on voit toutes ces femmes qui écoutent, et on se dit qu'effectivement, une société est prête à recevoir une nouvelle religion, c'est celle du développement personnel, et nous vivons en plein dedans.
Donc, c'était Electric Mice, tome 1, Wilbur, de Fabien Nury et Bruno. On sait quand sort le deuxième, non, pour l'instant, c'est pas...
Non, je crois pas. J'ai compris qu'il y aurait beaucoup de tomes articulés dans certains diptyques.
Ça dépendra du succès du premier tome.
Parce que là, c'est vrai que c'est le tout début. Il n'y a pas aucune résolution. On est suspendu.
Ça ouvre un grand appétit, en tout cas.
Exactement. Antoine Guillot, Victor Massé de l'Épiné, merci beaucoup d'être venu nous donner votre avis sur ces deux bandes dessinées. Et je vous rappelle que toutes les références, les titres de ces albums sont évidemment sur la page des Midi de Culture.